Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Quelle solution à la migration irrégulière au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. En 2025, près de 8000 migrants sont morts ou portés disparus à travers le monde, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, parmi eux des jeunes Maliens. En janvier 2025, 9 présumés Maliens ont péri dans un naufrage au large des côtes mauritaniennes. Quelques mois plus tôt, en décembre 2024, 25 jeunes Maliens ont perdu la vie au large du Maroc. Face à ces drames à répétition, une question demeure. Comment freiner la migration clandestine des jeunes? Et surtout, quelles solutions mettre en place pour leur offrir des opportunités ou des perspectives au Mali? C'est le débat que pose aujourd'hui le Grand Dialogue. Pour en parler, nous recevons Mme Sako Kadidiatou Koulibaly, universitaire et experte des questions migratoires. Mamadou Konaté, conseiller juridique de l'AME, Association malienne des expulsés. Et Djadje Sissoko, un migrant de retour. Moussa Malé Sissoko pour assurer la modération. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
D'abord, nous allons donner la parole à nos invités pour évoquer leur perception sur la question de migration irrégulière des jeunes. Ensuite, nous allons leur faire réagir pour dégager leurs pistes de solutions. D'abord, Monsieur Konaté, vous êtes conseiller juridique à l'AME. Les candidats à la migration irrégulière sont-ils toujours aussi nombreux?
Merci, Monsieur Sissoko. Donc, merci aux autres co-débatteurs. Alors donc, merci pour nous avoir invités à prendre part à ce débat. Effectivement, comme vous le savez, la question migratoire est une question extrêmement importante donc, ici chez nous au Mali. Donc, puisque les migrants, que certains appellent aussi diaspora, donc, apportent une contribution essentielle donc, dans l'économie nationale. Alors donc, effectivement, comme vous l'avez souligné, vous avez soulevé donc des chiffres de 2025 et de 2026. Donc, c'est énorme. Les gens continuent de partir puisque les causes qui poussent les jeunes à partir, donc ces causes-là demeurent toujours. Donc, les candidats sont toujours aussi nombreux.
Selon vous, quelles sont ces causes rapidement?
Ben, rapidement, ces causes, pour nous, la grande cause, c'est la pauvreté. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se résument dans ça. Par exemple, le manque d'emploi qui pousse les jeunes à partir. Et il y a aussi les questions liées à l'environnement, par exemple, les questions climatiques qui peuvent pousser aussi les jeunes à partir. Mais tout cela va rimer certainement avec la question économique, puisque quand la sécheresse frappe, ça peut créer le manque, les crises alimentaires et autres. Et ça ramène toujours à la question de pauvreté.
D'accord.
Et la majorité des jeunes qui partent, c'est pour aller chercher des conditions de vie meilleures qu'à ce qu'ils vivent sur place.
Ok. Madame Sako Kadidiatou Koulibaly, oui. Vous êtes universitaire. Alors, est-ce que vous partagez ces causes évoquées par M. Konaté, savoir le changement climatique, la pauvreté, qui sont pointées du doigt comme des raisons qui poussent toujours les jeunes à tenter cette aventure?
Ok. Merci bien, M. Sissoko. Merci de l'invitation. Aux autres également, merci. Effectivement, je suis universitaire chargée des questions, de l'enseignement des questions de migration. Je partage bien ce qu'il a évoqué comme cause. Et à cela, je peux ajouter qu'il y a également des motifs sociaux. Parce qu'il faut comprendre que l'immigration a plusieurs visages au Mali. Il y a des localités qui sont reconnues où il faut aller pour des raisons économiques, mais également il y a des régions qui ont adopté la migration comme source de promotion sociale. Il faut aller obligatoirement pour bénéficier d'une certaine vision de la communauté. Tant que tu ne t'en vas pas, tu ne seras pas concerné. Et les gens ne vont pas te considérer également.
Ok. Djadje Sissoko est un migrant de retour depuis 2011. Avec vous, Djadje, qu'est-ce qui vous a poussé à aller à l'aventure? Est-ce que c'est par migration irrégulière?
Bonsoir tout le monde. Bonsoir M. Sissoko. Ce qui m'a poussé d'aller à l'immigration, moi, je peux même dire que moi, je suis un fils d'immigré. Moi, mon papa, il est en France. Moi-même, je fais mes études à Caille, précisément à Yélimane, commune irlande de Crémis.
Dans votre village ?
Dans notre village. J'ai commencé mes études là-bas. C'est en 2015 que je suis venu à Bamako. Et j'ai essayé, avec notre. L'immigration, c'est obligé pour nous.
C'est
parce
que,
voilà, pour. Ça peut être comme pour moi, parce que. L'immigration, ça montre que tout le monde est parti. Soit vous êtes le même promotionnel avec ses ans, il amène des choses, luxe comme ça, ou soit il construit, il fait tout dans la famille. Bon, quand tu le vois ça, toi, tu n'as pas le moyen ici, tu n'as pas l'emploi ici qui peut te donner ça aussi. Tu es obligé d'aller.
Donc, quel qu'en soit,
voilà, que ça soit, voilà, que ça soit méditerranéen, que ça soit voie normale, n'importe quel. Il faut être, comment dire, d'aller pour investir aussi, vous aussi, changer votre vie.
D'accord. Ouais. Mais est-ce que vous êtes parti par voie terrestre, le désert ou par océan?
Non, moi je suis parti par vol.
Ok, par voie normale.
Par l'avion, oui.
D'accord. Madame Sacco, les actes qui sont posés ces dernières années, est-ce que ces actes-là ont contribué à réduire, c'est-à-dire la migration irrégulière?
Bon, ce qu'on peut dire, poser un acte aujourd'hui et s'attendre à un résultat aujourd'hui ou demain, ce n'est pas le cas. Il s'agit des questions de population. Donc, ça prend un peu de temps avant que nous ayons des effets. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer et surtout revoir du côté de la formation. Revoir du côté de la formation. Nous, nous sommes beaucoup plus littéraires. Il faut lier à cette formation théorique-là la pratique. Et surtout l'apprentissage des métiers. Quand ce qu'on voit à l'école est directement en relation avec la vie et que ça arrive à vous apporter, comme il l'a dit, des sous, là, il y a la facilité de construire sa vie, d'accéder à ce qu'on veut, et cela peut être dissuasif.
D'accord, des solutions, voilà. Nous allons évoquer.
Voilà.
Monsieur Konaté, Mamadou Konaté de l'AME, vous êtes association malienne des expulsés. Mm-hmm. Vous êtes en contact avec pas mal d'expulsés. Et est-ce que ceux qui viennent ces dernières années, est-ce que vous avez l'impression que ces dernières années, du début de la transition à ces jours, est-ce que il y a des actes qui sont posés qui, au moins, qui dissuadent certains à tenter cette aventure?
Pour les accompagner ou pour les...
Voilà, qui sont arrivés.
La réinsertion.
Non, réinsertion, ça c'est... On va en parler.
D'accord.
Voilà. Est-ce que les actes qui sont posés, comme elle a si bien dit, voilà.
Oui, évidemment, l'État fait son mieux pour ces migrants-là. Et je voulais préciser au passage que l'association malienne des expulsés, on ne s'occupe pas seulement des migrants expulsés. Donc, c'est les migrants de façon générale.
D'accord.
Mais les fondateurs de l'association étaient tous des migrants expulsés. Mm-hmm. Donc, ça a pris donc cette dénomination. Alors, donc, je disais que l'État faisait déjà de son mieux. Donc,
pour, en faisant quoi comme
en faisant, donc, d'abord au niveau donc, de l'accueil, quand les migrants sont expulsés. Donc, il y a un dispositif d'accueil, certes qui est à améliorer, mais il existe un dispositif d'accueil pour les accueillir déjà. Et donc, les héberger, il y a une cité même qui est construite pour les migrants. Donc, les accueillir, les héberger là-bas pendant un certain moment, avant donc de les permettre donc de repartir dans leur famille.
Oui, mais ça, c'est ceux qui retournent volontairement au pays ou qui sont expulsés. Mais de façon générale, des jeunes qui sont là, qui veulent tenter l'aventure, Sissoko a si bien dit, au niveau de la région de Caille.
Les candidats potentiels.
Voilà, des candidats potentiels,
oui,
sont toujours tentés.
Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Bon, je ne peux pas parler au nom de l'État, mais je sais que les organisations, en tout cas de la société civile, font déjà beaucoup dans ce sens-là. Notre organisation, d'ailleurs, Madame l'a si bien dit, nous faisons beaucoup donc de formations professionnelles, donc à l'intention des jeunes candidats, potentiels candidats, puisque les au Mali.
Dans quelle localité, à Bamako?
Dans toutes les localités du Mali, à Bamako, à Kaye, à Kita, donc à Baflabé, Maïna. On a donc initié des projets, programmes qui donc aident ces jeunes-là, donc en leur donnant donc des formations professionnelles dans plusieurs filières, les filières donc agro, écologie, horticulture, coiffure, teinture. Donc c'est à l'égard bien sûr des garçons et aussi des jeunes filles. Donc en tout cas beaucoup, donc pas seulement l'AME, il y a beaucoup d'organisations qui ils font ce genre d'activité à l'intention donc des jeunes, et c'est pour les migrants, mais aussi c'est pour les candidats, donc les potentiels candidats à la migration, puisque ces programmes-là comportent aussi des volets sensibilisation.
D'accord, donc, on va en parler. Monsieur Sissoko Diadié, est-ce que à votre retour, vous avez entrepris quelque chose pour au moins vous insérer dans la société malienne?
Oui, mon retour. J'avais un taxophone avant que je parte à l'immigration. Après mon visa, j'ai essayé de rendre tous mes matériels que j'avais sur mon taxophone. Dès que je retournais en tant qu'expulsé, je commençais à faire un taxi. Moi-même, je roule le taxi de 2016 en 2021.
À Bamako ici ou à Kaye?
À Bamako ici. C'est après ça maintenant que je fais la formation professionnelle comme fabrication de plastique, recycler le plastique en pavier, quoi. Fabriquer le plastique en pavier. J'ai même été jusqu'à Tienfala, parce que tu ne peux pas faire ces choses-là en centre-ville comme ça, ce n'est pas facile.
D'accord, pour gagner votre
vie. Voilà, pour gagner ma vie et puis arriver là-bas. Me donner des places aussi, si je peux travailler, et leurs enfants aussi vont m'accompagner. C'est un développement pour leur village aussi. Les villageois me reçoivent, les maires me reçoivent.
D'accord. Voilà. Bon, en termes de sensibilisation, si vous avez, par exemple, des conseils à donner à ces jeunes qui sont tentés d'aller à la migration irrégulière, sur les déserts ou à la mer, voilà, est-ce que vous avez eu à les rencontrer, à échanger avec certains pour savoir leur état d'esprit et puis leur donner des conseils aussi?
Oui. Oui, il y a beaucoup de jeunes que je donnais des conseils. Il y a beaucoup de jeunes que je les motivais aussi à faire ce que moi j'ai en train de le faire. Même si ce n'est pas leur vie, leur rêve, ils peuvent faire quelque chose comme une formation professionnelle comme ça. Que ce soit les carrelages, que ce soit le plomberie, l'électricité, ainsi de suite. De faire quelque chose, gagner un peu ce mien que d'aller te faire disparaître dans l'océan ou soit dans le sable désert comme ça. Bon, il y a certains qui ont même compris. Bon, on a essayé de se associer et faire chercher comme
un groupe.
Voilà, un groupe. Après le groupe, maintenant, on va essayer de faire chercher un partenaire qui peut nous appuyer. Quand ils nous appuient, le matériel qu'on a besoin, ils vont nous donner ça. On va essayer de faire quelque chose.
Non, Madame Sako, vous avez parlé tout à l'heure, vous l'avez flairé dans l'entame, parle de l'insertion des solutions. Et est-ce que parmi les solutions suivantes, là, lesquelles peuvent réduire ce phénomène rapidement?
Il faut élargir l'éventail surtout de la sensibilisation. Il faut sensibiliser parce que
Ça va être très difficile
parce que naturellement le Mali est un pays d'émigration. On peut dire même de migration. Il y a plusieurs facettes, les gens ont tendance à dire tout simplement migration. Mais puisque ça coïncide avec le départ chez nous, donc on comprend aisément. Mais il faut mettre l'accent vraiment sur la sensibilisation de façon décentralisée.
Voilà, à travers quels moyens?
À travers tous les moyens. À travers la mobilisation d'équipes, à travers les langues locales. Parce que faire des émissions à la radio en français à Bamako, moi je trouve que ça ne touche pas, ça n'atteint pas le nœud du problème. Donc il faut le faire. Et puis chaque fois qu'on a l'occasion à l'école, les structures qui sont impliquées dans la gestion, l'OIM, l'État, les associations de femmes, il faut vraiment leur donner les moyens et surtout l'engagement pour que ces gens-là atteignent ces jeunes qui sont des candidats.
Ok, Sissoko venait de nous partager son expérience. Mm-hmm. Il a entrepris, il a bénéficié de formation. Oui. Est-ce que cette façon de les réintégrer dans la société de façon professionnelle pourrait au moins contribuer à réduire le nombre de nouveaux départs irréguliers?
Bien sûr. Comment? En jouant sur le temps. Comment? Parce que quand les jeunes voient que c'est possible de réussir au Mali, ils vont rester sur place. Et il faut aussi faire beaucoup de vulgarisation par rapport aux pertes liées à l'émigration. Parce que tu vas... Au départ, ils sont décidés. Hein? Même s'il faut aller mourir dans la mer, même s'il faut perdre sa vie dans le désert, ils sont décidés à partir. Mais avec beaucoup plus de vulgarisation, avec la sensibilisation, en montrant que c'est possible de réussir au Mali, c'est bien possible. Et je pense que l'État est en train de prendre déjà le devant, parce qu'il y a la politique de migration qui a été élaborée depuis 2014. C'est en cours. Bon, je ne sais pas si c'est fini. En tout cas, ils m'ont interviewé par rapport à la révision. Ça, il fait quelques années. Si on arrive à montrer que c'est possible de réussir au Mali avec beaucoup de potentialités que nous avons, rien ne manque au Mali. Il s'agit juste de former la ressource humaine et de montrer aux jeunes que on a besoin beaucoup plus de vous ici qu'ailleurs.
D'accord. Monsieur Konaté, elle parle tout à l'heure de la formation, de mettre l'accent sur la sensibilisation pour dissuader des potentiels candidats. Est-ce que ça suffit? Vous, à votre niveau, vous accompagnez des migrants, vous sensibilisez également. Est-ce qu'aujourd'hui, dire à quelqu'un qui manque d'opportunités ici, de lui dire d'attendre, est-ce que ça les convainc?
Oui, merci. Bon, oui, effectivement, la seule sensibilisation ne suffit pas. Il faudrait qu'elle soit accompagnée par
des actes,
donc comme des offres de formation. C'est pour cela que je l'avais dit tantôt. Et nous avons des programmes donc, qui comportent différents volets. Et parmi ces volets, il y a le volet sensibilisation, mais il y a des formations concrètes. Et sur des filières que j'ai dit, maçonnerie, nous travaillons avec les structures de l'État, par exemple, les centres professionnels de l'État, les centres professionnels privés, donc pour effectivement non seulement expliquer aux migrants, aux candidats potentiels, les dangers qui se trouvent sur la route. Il a parlé donc du désert, de la Méditerranée, ce sont des dangers. Et puis, il y a aussi les passeurs. Donc, les gens peuvent tomber entre les mains des passeurs et certains sont vraiment donc dangereux pour ces personnes-là.
Voilà.
Alors, donc, on combine tout, formation pratique et sensibilisation. Et puis, très souvent, à la sortie donc, de ces formations-là, nous parvenons à les accompagner, donc en les aidant à s'installer donc, pour un début.
En les installant, est-ce que l'accès au financement, c'est aussi parce que former des gens dans des domaines précis qui sont sollicités d'ailleurs au niveau du Mali, maçonnerie et d'autres emplois. Mais l'accès au financement et surtout au marché n'est pas du tout une chose aisée.
Nous les accompagnons puisque quand on les accompagne...
En déboursant de financement...
Oui. En les aidant par exemple à acheter donc, les matériels qui les permettent donc, de s'installer, de commencer à faire un travail. Et par exemple, en 2025, nous avons formé 100 jeunes à Bamako. Donc 100 jeunes dans les filières coiffure, transformation agroalimentaire. Alors donc ces 100 jeunes-là, nous les avons accompagnés jusqu'à leur sortie et jusqu'à leur installation. Mais comme c'est 100 personnes, ce n'est pas facile de les accompagner individuellement, ça demande beaucoup d'argent. Donc nous avons dû donc les regrouper par dizaines.
Donc, en association.
En association, en groupement. Et on les a accompagnés dans l'élaboration donc, d'un plan d'affaires, par exemple, de ce qu'ils veulent faire après la formation. Et donc, après ça, on les a aidés aussi donc, à monter un projet donc, avec un peu d'argent. Et donc, ce qui les a permis, effectivement, donc, après la formation, de s'installer et de commencer donc, timidement des activités.
D'accord. Djadje Sissoko, vous, quand vous avez fini avec la formation, est-ce que vous avez reçu des financements d'une banque ou d'une association ou bien vous avez dû économiser avec votre taxi pour pouvoir entreprendre?
Oui. Bon, j'ai fait la formation après la formation, c'est à moi-même que j'ai en train de travailler avec jusqu'à maintenant. Je n'ai pas eu, comment dire, un financement de banque ou soit de, aux côtés du partenaire ou soit de famille ou quoi. Moi-même, à moi-même. Après la formation, j'ai essayé de réfléchir aussi de faire une association comme Rouge en Vert, comme l'environnement, quoi. L'environnement est en danger parce que je ramasse ces plastiques et je fabrique en pavé. Les carrés qui sont dégradés. Peut-être que je peux avoir des jeunes comme moi, surtout chez nous là-bas, on va essayer de le poser. Quand on le pose, les habitants qui sont là-bas, ils vont cotiser. Ce qu'ils vont nous donner, on va essayer de le faire encaisser ça.
Mais est-ce que vous avez tenté d'obtenir des financements pour avoir fructifié davantage votre activité? Bien, vous allez vous en tenir à ce que vous avez?
Non, je n'ai pas tenté à chercher des financements au niveau soit du partenaire ou soit du banque.
D'accord. Madame Sako, alors, et selon vous, quel programme concret à ce niveau, après ces formations, ces jeunes-là à aller vers quoi? Quel programme concret faut-il maintenant mettre en place?
Vous savez, M. Sissoko, il y a un traitement holistique qu'on doit réserver à cette question-là. Mais je vais vous dire que il faut, là où nous sommes, il faut vraiment travailler sur la conscience des jeunes en leur demandant d'être patients. D'être patients. Parce qu'on veut tout avoir et tout de suite. Or, l'entrepreneuriat dont nous sommes en train de parler sans l'indexer, il faut un temps, vous commencez petit, petit à petit, ça va aller jusqu'à ce que vous vous retrouvez. Et quelqu'un d'autre va vous observer, épouser la même stratégie, et c'est comme cela, de fil en aiguille, l'acte va être posé de façon concrète et ça va aller. Et aussi avec l'État et ses partenaires, vraiment qu'on finance ces jeunes-là avec des montants qui peuvent permettre d'entreprendre en réalité.
Justement, comment améliorer la gouvernance dans ce secteur-là?
Oui, améliorer la gouvernance en donnant les moyens nécessaires à ces jeunes-là et aller à la source. Aller à la source, depuis dans les villages, dans les recoins, et aller, peut-être si vous voulez, installer des centres là-bas, les encourager à fréquenter ces centres-là. Parce que installer un centre et que le centre soit fréquenté, ça fait deux. Il faut encourager ces jeunes-là à venir suivre la formation. Comme il l'a dit, il a fait une première expérience scolaire, mais après, il est parti. C'est la même chose au niveau des villages-là. Donc, il faut être vraiment concret, pragmatique, montrer sur le terrain que voici des centres qui sont là pour vous, qui sont destinés à votre formation et de vous conduire à la sortie. Ceux qui vont persévérer, nous allons les installer, donner les moyens qu'il faut conséquents à leur installation.
Mais est-ce que l'insécurité aussi n'est pas un facteur? Parce que depuis des années maintenant au Mali, il y a dans certaines localités, les jeunes n'arrivent plus à s'occuper des travaux champêtres, et également de leurs activités au niveau local, comme au centre, le tourisme, dans la région de Kaï également. Donc est-ce que c'est des facteurs également qui permet à ces jeunes-là de ne pas se stabiliser dans leur localité?
Oui, même pas les jeunes seulement, mais c'est l'insécurité, c'est un élément important, mais c'est venu après. C'est venu après. Et de plus en plus, il y a des gens qui arrivent à retourner à leur coin, mais il faut travailler cette facette quand même. Okay. Il faut travailler.
OK. Monsieur Konaté de l'AME, alors les acteurs qui devraient être plus impliqués dans cette lutte contre la migration irrégulière, selon vous, quels sont ces acteurs?
Mais merci. Bon, et c'est l'ensemble des acteurs donc de la question migratoire. Mais c'est l'État en pointe. Donc l'État, parce que c'est eux les décideurs et tout. En tout cas, l'AME travaille beaucoup pour sensibiliser, par exemple, les migrants, parce que nous percevons la migration comme un droit pour chacun, le droit d'aller ou de ne pas aller. Donc
par la voie légale.
Bon, on n'a pas... en tout cas, pour nous, comme c'est une association de défense des droits également, donc nous disons, nous prenons le droit d'aller ou de ne pas aller. Et maintenant, nous donnons beaucoup de... Parce que nous avons été témoins donc, de beaucoup de difficultés que les migrants qui vont donc de façon irrégulière donc par la route. Nous avons été beaucoup témoins de cela. Donc, nous donnons des informations sûres à ces migrants potentiels-là. Donc, ils doivent s'en tenir si jamais ils décidaient de partir. C'est-à-dire, puisque c'est des majeurs, donc nous leur laissons le choix de décider de partir ou de ne pas partir. Mais s'ils décidaient de partir, ils doivent avoir toutes les informations relatives donc à ces voyages-là, les dangers qu'ils peuvent avoir sur la route. Donc, si c'est après ça, vous êtes libre de savoir si est-ce que je peux aller donc malgré tout. Bon, dans beaucoup de cas, on constate que quand les jeunes sont décidés à partir, donc souvent rien ne les arrête.
Oui, par rapport au départ, selon vous, pour freiner ce phénomène toujours, hein, quel domaine prioritaire, quel domaine l'État doit privilégier, prioriser pour réduire le nombre de partants, concrètement?
Ça, c'est la formation professionnelle. Parce que la plupart de ceux qui partent, ils évoquent des questions. C'est vrai, il y a des questions sociales, hein, comme on l'a dit. Il y a des exemples, par exemple, nos familles, les familles nombreuses, il y a beaucoup de femmes, il y a des enfants, il y a souvent des questions de rivalité qui s'installent entre les enfants. Donc, de sorte que quand quelqu'un part, même si l'autre n'est pas dans le besoin, souvent, il est obligé de partir.
Sissoko l'a dit, dans certaines communautés.
Exactement.
Alors, mais Sissoko, à votre niveau, vous avez entrepris, vous êtes entrepreneur maintenant, malgré vos moyens limités. Alors, est-ce que c'est facile, cette expérience d'entreprendre? Parce que ça implique quoi?
Bon, je peux dire que ce n'est pas facile. Entreprendre quelque chose, il faut avoir le courage. Il faut que ça soit votre rêve aussi. Et puis, le problème, c'est quoi? Entreprendre quelque chose, ça manque de matériel. Quand tu n'as pas de matériel, même quand tu fais la formation, après la formation, tu es toujours au chômage, quoi. Mais quand tu as le matériel, après la formation, après la pratique, automatiquement, tu vas aller dans le au but du travail, quoi.
Ok. Voilà. Madame, il a si bien dit, Madame Sako, Sissoko dit qu'il faut être animé de courage, volonté, oui, malgré le moyen limité. Vous parlez de la création de ces centres-là. Est-ce que les jeunes aujourd'hui s'impatientent? Parce que quand on forme, le financement également, ça tarde à venir.
Effectivement.
Voilà, dans des contextes comme ça, est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats, même si on sensibilise?
Non. Non. Tant qu'il n'y a pas, tant que la formation là n'est pas suivie de financement à hauteur de souhait et d'un travail psychologique important, et ensuite ajouter à cela l'adéquation entre les besoins du marché et la formation, là, tout sera voué à l'échec, malheureusement.
D'accord. Au niveau local, c'est pas l'État central, le gouvernement central seulement, au niveau local. Mmh. Alors, quelles sont les responsabilités des collectivités dans cette lutte?
Les responsabilités sont grandes. Et je pense que déjà, les autorités locales, si on peut le dire, sont à pied d'œuvre. Parce que chaque fois que les jeunes là... J'ai l'habitude d'aller faire des enquêtes à l'intérieur. Et donc, par rapport à ces enquêtes-là, on voit que si vous échangez avec les préfets, vous échangez avec les maires, les chefs de village, ils vous disent chaque fois qu'ils sensibilisent les jeunes, ils leur montrent les dangers, mais c'est seulement une question d'argent, c'est une question sociale qui est là et les jeunes ne sont pas patients. Donc, dans ce contexte-là, vraiment, il faut... beaucoup plus d'implication. On est obligé de parler toujours de l'État. Il faut une implication et un changement. Parce que moi, quand je travaille, je finis avec l'école. Chez nous, celui qui travaille, c'est celui qui va au bureau. C'est cela. Donc, même si vous êtes à votre propre compte, tu ne te sens pas travailleur parce que la vision dont tu voulais bénéficier, là, n'est pas là.
Donc, c'est une question de mentalité, selon Mme Sako Kadidiatou. Monsieur Konaté, est-ce qu'il faudrait-il aujourd'hui travailler à changer la perception même des gens sur cette question de départ
Absolument.
Qui comporte également énormément de risques. Mmh. Donc, est-ce qu'il faut travailler? Parce que même si l'État s'implique en sensibilisant, bon, s'il y a cette mentalité dans la société.
Absolument. Il faut que la vision change, la vision que les uns et les autres ont sur cette question-là. Et d'ailleurs, nous avons travaillé longtemps, il y a très longtemps d'ailleurs, on avait essayé d'avoir un programme sur ça. Et la valorisation de l'individu dans son milieu, c'est-à-dire que chercher à valoriser tout un chacun dans, là où il se trouve. Donc c'était tout un programme qui devait travailler dans le sens qui comprenait justement des sensibilisations, mais des accompagnements pour fixer les jeunes dans leur milieu local.
D'accord, rapidement, quels sont les domaines prioritaires qu'il faut privilégier, qu'il faut mettre en œuvre pour stopper ce phénomène?
Pour stopper la migration irrégulière? Oui. Ben, écoute, c'est l'implication de l'État, de tous les acteurs, en premier l'État, les organisations de la société civile, les chercheurs pour nous donner de bonnes idées.
Selon vous, Madame Sakho, les domaines prioritaires.
Comme il vient de nous interpeller pour vous dire que, aux migrants, je vais dire que la voie légale protège. De notre côté, l'université, tout de suite, nous venons de réviser nos programmes et de créer 4 filières. La 5e est en latence. 4 filières qui sont vraiment porteuses aujourd'hui. Et je pense qu'avec cela, dupliqué dans beaucoup de structures universitaires, ça va faire tache d'huile.
C'est ce qui met fin à cette émission au Grand Dialogue. Un grand merci à nos invités ici présents. À la régie son vidéo, Mamadou Ouattara et Noum Djiré. Auditeurs, téléspectateurs et internet, merci pour votre aimable attention. À la semaine prochaine pour un autre numéro.